VOA Afrique. Le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir le monde aujourd'hui. Bienvenue dans cette édition du mardi 19 juillet 2022. Avec vous, Eric Manila-Kidza. Voici d'abord le sommaire. Lomé accepte d'aider Bamako à régler son différend avec Abidjan sur les 49 militaires ivoiriens détenus au Mali. En Guinée, baisse inquiétante du nombre de bacheliers. En Tunisie, le chef du parti d'inspiration islamiste Ennahda, interrogé par le pôle antiterroriste. Le président russe Vladimir Poutine en visite à Téhéran pour un sommet tripartite Iran, Russie, Turquie. Dans 10 minutes, vous suivrez également l'économie et les sports. Mais d'abord, le journal. La junte malienne a appelé à une médiation du Togo qu'il a acceptée pour un dénouement heureux de l'affaire des 49 militaires ivoiriens détenus à Bamako. C'est ce qu'ont indiqué hier Abdoulaye Diop, chef de la diplomatie malienne, et Robert Ducé, son homologue togolais, est reçu à Bamako. Le point avec Nani Tetalani.
Le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, s'est dit ouvert au dialogue et disposé à œuvrer à un dénouement heureux de cette situation dans le strict respect de la souveraineté du Mali, soulignent dans un communiqué conjoint les ministres des Affaires étrangères maliens et togolais. Le président de la transition malienne a souhaité que le Togo mène une mission de bons offices entre les parties concernées. Le ministre Robert Ducé a réaffirmé la disponibilité du président Fornia Singbe à poursuivre son appui à la transition et à aider à la résolution de cette situation, poursuit le communiqué. La Côte d'Ivoire a demandé mardi la libération sans délai de ses 49 militaires arrêtés le 10 juillet à l'aéroport de Bamako qui les accusent d'être des mercenaires cherchant à déstabiliser le pays. Abidjan affirme que les soldats sont venus dans le cadre d'opérations de soutien logistique à la MINUSMA.
Le président de la Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, a rencontré le ministre des Affaires étrangères togolais, Robert Ducé, qui assure cette médiation entre Abidjan et Bamako. Monsieur Ouattara a exprimé ses remerciements à son homologue togolais, Faure Gnassingbé. Des groupes djihadistes du Burkina Faso ont récemment détruit à la dynamite des ponts sur les axes principaux menant vers Dori et Djibo. Les ponts de Woussé sur l'axe Kungusi-Djibo et Donaré sur l'axe Kaya-Dori ont été dynamités quasi simultanément vendredi par des groupes djihadistes, selon l'armée qui note une tentative d'isolement de ces localités. Les villes de Dori et Djibo sont restées inaccessibles par la route ce mardi. L'objectif des groupes djihadistes est d'isoler ces villes de la capitale de Ouagadougou et plus largement des régions du centre, du plateau central et du centre-ouest les plus peuplées et les plus névralgiques en termes d'activité économique et politique, note mardi dans un éditorial l'observateur Palga indépendant, plus ancien des quotidiens burkinabés. La Guinée ne compte en 2022 que 9% d'admis au baccalauréat sur plus de 100 000 candidats. Il s'agit d'une baisse radicale par rapport aux 25% de l'année dernière et aux 44% de 2020, ont annoncé les autorités. Le point avec Rosine Monezer.
En voyant les résultats de ces examens nationaux, nous n'avions que deux choix. Faire un repêchage et continuer ainsi la politique de l'autruche ou dire la vérité au peuple de Guinée, a déclaré à la presse le ministre de l'Éducation, Guillaume Hawing. Selon lui, ces mauvais chiffres confirment le très faible niveau de notre système éducatif et sont le reflet de la déliquescence à outrance de l'école guinéenne. Les résultats du bac sont abondamment commentés sur les réseaux sociaux, de nombreux internautes les jugeant catastrophiques. L'école guinéenne a un déficit criant de 20 000 enseignants. Les mauvaises performances des élèves s'expliquent aussi par le manque de tables, de bancs, de bibliothèques et de laboratoires, les effectifs pléthoriques et des enseignants qui ne suivent aucune formation didactique et pédagogique. Le ministre de l'Éducation a annoncé l'organisation de sessions pour améliorer le niveau des professeurs et le recrutement de nouveaux enseignants.
Un militaire et trois rebelles ADF sont morts mardi dans des combats à Beni vers la frontière de la RDC et l'Ouganda. Les forces armées de la RDC continuent l'opération de nettoyage de l'ensemble du secteur de Rwenzori pour assurer la sécurité aux usagers de la route Beni-Kassindi et permettre le retour des importations et des exportations des marchandises, a déclaré le porte-parole de l'armée à Beni. À deux reprises, les 12 et 16 juillet, les ADF ont attaqué Beniville, tuant 6 civils, alors que sur l'axe routier Beni-Kassindi, des attaques sont devenues très fréquentes. En Tunisie, le chef du parti Ennahda, Rached Ghannouchi, a été interrogé ce mardi par un juge d'instruction du pôle antiterroriste. Cette interpellation intervient quelques jours avant un référendum proposé par le président Kais Saied. Le point avec Jean-Roger Bion.
Rached Ghannouchi, 81 ans, fait l'objet depuis le mois de juin d'une enquête pour des soupçons de corruption et blanchiment d'argent liés à des transferts depuis l'étranger vers l'organisation caritative Nama Tunisie, affiliée à Ennahda. Ce parti et M. Ghannouchi ont rejeté toutes les accusations. Début juillet, la justice a ordonné le gel des comptes bancaires de M. Ghannouchi et d'une dizaine de membres de sa famille dans le cadre de cette enquête. Les autorités judiciaires ont également interdit à M. Ghannouchi de voyager à l'étranger dans le cadre d'une autre enquête pour les assassinats en 2013 de deux dirigeants de gauche. Le président Kais Saied a appelé à un référendum sur une nouvelle constitution le 25 juillet. Le parti Ennahda et des organisations de défense des droits humains accusent le chef de l'État tunisien de vouloir faire adopter un texte taillé sur mesure.
L'armée américaine a annoncé avoir mené une frappe aérienne dans une zone reculée de Somalie qui a tué deux miliciens du groupe islamiste Shebab. Au Soudan, des milliers de Haoussa ont manifesté aujourd'hui à travers le pays au cri de vengeance. Ils étaient des milliers à manifester à Khartoum, mais aussi au Kordofan Nord ou encore à Kessala, Ker Daref et Port-Soudan dans l'est côtier à Khartoum sur l'avenue de l'aéroport. La police a tiré des graines lacrymogènes sur plusieurs centaines de manifestants qui brandissaient des banderoles disant non aux tueries de Haoussa.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le président Joe Biden a ouvert mardi la voie des sanctions contre les pays qui emprisonnent injustement des Américains et a ordonné des avertissements de voyage plus détaillés. Cette décision intervient après une large couverture médiatique de la détention en Russie pour trafic de drogue de la basketteuse américaine star Brittney Griner, dont l'épouse avait accusé M. Biden de ne pas en faire assez pour parvenir à sa libération. Le décret signé par Joe Biden autorise les agences gouvernementales à imposer des sanctions financières ou des interdictions de voyager aux fonctionnaires étrangers ou aux acteurs non étatiques impliqués dans des détentions injustes d'Américains. Les présidents iraniens, russes et turcs se sont réunis aujourd'hui à Téhéran pour des discussions axées principalement sur le conflit en Syrie, mais aussi sur la guerre en Ukraine et ses retombées sur les économies mondiales. Jacques Aristide.
Il s'agit du premier sommet présidé par Ebrahim Raisi depuis son arrivée au pouvoir il y a un an en Iran et du deuxième déplacement à l'étranger de Vladimir Poutine depuis le début de l'offensive russe en Ukraine le 24 février. La réunion tripartite est dominée par la Syrie où la Russie, la Turquie et l'Iran représentent des acteurs majeurs dans la guerre qui ravage le pays depuis 2011. Moscou et Téhéran soutenant le régime de Bachar al-Assad et Ankara appuyant des rebelles. Les trois pays ont entamé en 2017 le processus dit d'Astana visant officiellement à ramener la paix en Syrie. Le sommet survient alors que la Turquie menace depuis deux mois de lancer une nouvelle opération militaire dans le nord de la Syrie. Téhéran et Moscou ont d'ores et déjà dit leur opposition à une telle offensive. Le chef de l'État turc a été reçu ce matin par son homologue iranien dans le palais de Saadabad, dans le nord de la capitale iranienne. Plus tard dans la journée, Recep Tayyip Erdogan et sa délégation ont rencontré le guide suprême iranien, l'ayatollah Ali Khamenei. La visite de Vladimir Poutine à Téhéran intervient quelques jours après la tournée du président américain Joe Biden au Moyen-Orient, où il s'est rendu en Israël, ennemi numéro un de l'Iran, et en Arabie Saoudite, son puissant rival régional.
La température a dépassé mardi le seuil des 40 degrés Celsius au Royaume-Uni, un record historique pour le pays, a annoncé l'agence météo Met Office. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. Dans l'actualité économique en Afrique et ailleurs, suivez la Minute Éco signée Nanit Sylvani Talani.
Le Congo-Brazzaville annonce de bonnes performances de son brut, notamment la cargaison de Dieno Mélange vendue sur le marché asiatique à 80% au deuxième trimestre 2022. La production du bassin côtier atteint le seuil journalier de 268,865 barils en hausse de près de 9000 barils, soit près de 3% par rapport au début du trimestre. Les groupes algériens Sonatrach, américain Occidental, italien Eni et français Total ont signé ce mardi un contrat de production pétrolière et gazière de 4 milliards de dollars. Ce contrat d'une durée de 25 ans porte sur l'exploitation des gisements gaziers et pétroliers du bassin de Berkine. Il vise à récupérer plus d'un milliard de barils équivalent pétrole d'hydrocarbures. Pour terminer, les géants pétroliers Eni et Shell et leurs dirigeants, mis en cause dans une vaste affaire de corruption au Nigeria, ont été définitivement relaxés ce mardi après la décision du parquet de Milan de renoncer à l'appel. La justice italienne soupçonnait les deux groupes d'avoir versé 1092 milliards de dollars de pots de vin pour l'acquisition d'une licence d'exploration du bloc pétrolier offshore au Nigeria. Eni et Shell avaient toujours contesté fermement toute corruption.
Et sans transition, nous passons à votre page d'espoir avec Yacouba Ouédraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir Eric, bonsoir à tous.
Football, la finale de la CAN féminine Maroc 2022 opposera l'Afrique aux pays hôtes.
Oui, c'est un coup de tonnerre. Le triple champion consécutif nigérien est out. En demi-finale hier, les Lions marocaines qui n'avaient jamais passé la phase de poule d'une CAN féminine ont battu les Super Falcons nigérianes au tir au but. 5 tirs réussis contre 4 après un score d'un but partout à l'issue du temps réglementaire et des prolongations. En finale, samedi 23 juillet, elles affronteront les Bayana Bayana sud-africaines, finalistes lors de la dernière édition et qui se sont imposées 1-0 devant la Zambie. À noter que ces 4 demi-finalistes seront les représentants du continent à la prochaine Coupe du monde féminine prévue en juillet-août 2023 en Australie et en Nouvelle-Zélande.
L'Ivoirien Sébastien Haller, très ému par le soutien reçu depuis l'annonce de son cancer.
L'attaquant ivoirien dit être touché par les nombreux messages de soutien et d'affection depuis l'annonce qu'il souffre d'un cancer des testicules, a écrit l'avant-centre du Borussia Dortmund sur Twitter. Hier, le club allemand a annoncé que son attaquant recruté à l'Ajax Amsterdam a quitté le camp d'entraînement pour se soigner. Une tumeur dans les testicules a été découverte après des examens médicaux intensifs, a écrit le Borussia Dortmund sur son site, expliquant que l'attaquant de 28 ans s'est plaint d'un malaise après l'entraînement lundi matin en Suisse, à Bad Ragaz, où le vice-champion d'Allemagne prépare la nouvelle saison.
Athlétisme avec les championnats du monde qui ont eu lieu à Eugene, ici aux États-Unis.
Les athlètes africains continuent de faire sensation dans les disciplines où ils sont attendus. Le champion olympique marocain Soufiane El Bakkali est sacré au 3000 mètres steeple pour la première fois. En 8 minutes 25 secondes 13, El Bakkali a devancé l'Éthiopien Lamecha Girma et le champion du monde en titre kényan Conseslus Kipruto. Premier titre majeur également pour l'Éthiopienne Gotitom Gebreselassie, vainqueur du marathon en 2h18 minutes 11 secondes, son record personnel. Elle s'est imposée devant la Kenyane Judith Cheptoum courir et l'Israélienne Lona Chemtaï.
Le COVID-19 est aussi présent à ces mondiaux d'athlétisme.
4 nouveaux membres de la délégation du Japon ont été contrôlés positifs au COVID-19, portant à 15 le nombre de membres de cette représentation infectés par le virus selon la Fédération japonaise. Parmi ces nouveaux cas, un officiel et 3 athlètes, dont le sprinteur Yuki Koike, médaillé de bronze du 4x100 mètres aux mondiaux 2019, contraint de déclarer forfait pour le 200 mètres. Les 11 cas précédents annoncés hier le week-end concernaient 3 marathoniens, l'entraîneur en chef de la sélection nippone, 3 entraîneurs et 4 membres du staff. Ces 15 personnes doivent observer une période d'isolement de 5 jours.
Et c'est tout pour les sports. Merci Yakuba. VOA Afrique. Vous êtes à l'écoute du Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique. De retour avec vous, Eric Manirakiza. Place au dossier du jour. Législative au Sénégal, la principale coalition d'opposition par 100 personnalités politiques connues aux législatives. Pour beaucoup de Sénégalais, c'est difficile de voter pour de parfaits inconnus. Pour d'autres, l'essentiel est que le régime en place ne gagne pas, peu importe le profil des élus. Le reportage de Seydina Abagay, notre correspondant à Dakar.
Qui de Yewi Askanoui ou Benno Bokuyakar dirigera l'Assemblée nationale après les législatives du 31 juillet? Cette question est le sujet du débat entre ces deux amis mécaniciens trouvés dans leur atelier. Pour Mambaye Diop, même si les leaders de la coalition de l'opposition ne sont pas de la course, leurs remplaçants sont assez compétents pour aller à l'Assemblée.
Ce sont des humains dotés d'intelligence comme les leaders, donc ils peuvent bel et bien les remplacer. Être député dans ce pays, c'est pas diable. Il suffit de savoir ce que veut la population et défendre ses intérêts. C'est juste ça. Si quelqu'un est un pro de la coalition Yewi Askanoui, même s'il ne les reconnaît pas, il peut voter pour eux.
Même s'ils ne les connaissent pas, beaucoup de Sénégalais ont confiance en ceux qui sont investis dans la liste des suppléants de la coalition d'opposition Yewi Askanoui. C'est le cas de Baye Diop, un menuisier, qui dit que les valeurs des leaders doivent forcément déteindre sur leurs suppléants.
Je vais quand même voter pour la coalition d'opposition Yewi Askanoui, même si je ne connais pas ses candidats. Moi, j'ai confiance en Ousmane Sonko et je pense que lui et les autres leaders ont inculqué les valeurs qu'ils défendent aux autres. Donc, j'ai confiance.
Madi Ndiaye, lui, se veut clair. Il ne va pas voter pour des inconnus et prône le boycott de ce scrutin.
Personnellement, je ne compte pas voter pour une liste où il n'y a pas Sonko et les autres leaders. Je ne le ferai pas. Et je pense que je vais même boycotter ces élections législatives. C'est la meilleure option.
À cause des erreurs notées par la Direction générale des élections après le dépôt de leur liste, Ousmane Sonko, Dethie Fall, Aïdou Mbodj et d'autres figures de la coalition d'opposition, Yewi Askanoui, ne seront pas à l'hémicycle pour la 14e législature malgré la contestation de cette décision administrative. Cependant, pour un bon nombre de leurs partisans, le mot d'ordre est le même, tout sauf Benno Bokuyakar, la coalition au pouvoir. Seydina Abagay à Dakar pour VOA Afrique.
FM 102, c'est VOA Afrique à Dakar au Sénégal, 24h sur 24.
Au Cameroun, les autorités exposent le cadavre d'un leader séparatiste dans les villes et villages afin de dissuader les rebelles et avertir les jeunes de ne pas rejoindre leur cause. L'armée dit avoir tué la semaine dernière Likika Oliver, qui était recherché pour avoir collaboré avec des séparatistes du Nigeria voisin afin de tuer des civils, commettre des décapitations et de brûler des centaines de bâtiments publics. Le reportage de Moki Edwin Kinzeka depuis Yaoundé. Le récit est de Rosine Monezero.
L'armée camerounaise affirme que des centaines de personnes ont assisté ces derniers jours à cette parade du corps du leader séparatiste Likika Oliver. L'armée dit avoir tué la semaine dernière son maréchal autoproclamé qui dirigeait une faction rebelle dite du Dragon Rouge à Menji, proche de la frontière avec le Nigeria, ainsi que son garde du corps. L'armée accuse Likika d'avoir décapité au moins 10 personnes, dont 3 chefs de village, et d'avoir attaqué des dizaines d'écoles depuis 2017. Chamberlain Toundong est le plus haut responsable gouvernemental à Mémé, où il s'est exprimé dimanche devant une foule. Selon lui, Yaoundé a demandé à l'armée d'exposer le cadavre comme un avertissement aux séparatistes anglophones.
C'est un témoignage que tous ceux qui ne sont pas prêts à se rendre vont faire face à nos forces de l'ordre. Le chef de l'État a donné un mot d'ordre à tous ceux qui restent dans la brousse de déposer les armes et de rejoindre le reste de la population pour le développement de ce pays.
Dong dit que cette exposition vise à dissuader les jeunes de rejoindre les groupes rebelles. Capo Daniel, chef des forces de défense dites de l'Ambazonie, estime que cette exhibition macabre n'aura aucun impact sur leur détermination.
Le maréchal a été remplacé par un leader plus jeune et plus dynamique. Notre résistance armée contre la domination camerounaise ne fera que s'intensifier. Nos forces ont reçu des instructions pour mener des actions de représailles en réponse à l'assassinat du maréchal. L'exposition d'un tel cadavre par le gouvernement camerounais ne fait qu'ajouter à la liste des tactiques de terreur utilisées pour subjuguer notre peuple. Notre lutte pour l'autodétermination ne fera que s'intensifier.
Ephraim Foreke est enseignant dans une école publique à Fontem, où se trouvaient de nombreux camps rebelles. Selon lui, la mort d'Oliva est un soulagement pour les civils. S'adressant à VOA lundi, il a déclaré que les habitants ont commencé à nettoyer les écoles dans l'espoir que les enfants et les enseignants qui ont fui puissent revenir.
Nous sommes devant le bloc administratif. Il y a des gens en bas qui sont en train de nettoyer jusqu'à la section francophone. Toutes les parties ont été détruites. Les chaises qui étaient là ont toutes été mangées par les rats. Chaque endroit est comme un cimetière. Ils ont tout saccagé.
Selon l'ONU, le conflit séparatiste depuis 5 ans a tué plus de 3 000 personnes et fait au moins 750 000 déplacés.
Jacques Aristide avec vous dans Washington Forum. Ce jeudi, nous faisons le bilan de la première tournée de Joe Biden au Moyen-Orient en tant que président des États-Unis. Le périple avait notamment pour objectif de raffermir le rôle de l'Amérique dans cette partie du monde, avec des attentes concernant les prix du pétrole, de même que les droits humains. Quels sont les résultats de ce voyage de l'actuel locataire de la Maison-Blanche ? Y a-t-il eu des avancées notables et des percées diplomatiques ? Attendons vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique, Washington Forum, ce jeudi à 19h30.
En Éthiopie, malgré une guerre civile en cours et une sécheresse record, la production de blé devrait bondir de 70% cette année. Le pays cherche à réduire sa dépendance aux importations alimentaires, alors que l'augmentation de la production de blé offre une lueur d'espoir, des millions d'Éthiopiens déplacés ont toujours besoin d'une aide. Depuis Semera, dans la région Afar, le reportage de Henry Wilkins, le récit signé Yakuba Ouedraogo.
À la périphérie de Semera, une ville de la région Afar, des tracteurs préparent le sol pour planter du blé. Les champs irrigués sont un spectacle rare, mais de plus en plus courant dans la région. Cette volonté du gouvernement éthiopien de planter davantage de blé fera passer la production céréalière de 1,42 million de tonnes l'an dernier à 2,4 millions de tonnes cette année, selon les chiffres officiels. Ghetto Kassa travaille dans les champs de Semera.
Le gouvernement vise à ce que ce programme couvre toute demande provenant du marché et réduise les importations. Il devrait également offrir des opportunités d'emploi à la population.
Hilmarayam Abara, un autre travailleur, dit que le projet a eu un impact positif pour lui.
Je travaille pour 1900 birres dans un autre programme. Mais maintenant que ce programme a commencé, je gagne 3000 birres.
Cela signifie que les revenus d'Abara sont passés de 36 à 57 dollars américains par mois. L'objectif du gouvernement est d'éliminer la nécessité d'importer du blé d'ici l'année prochaine. Mohamed Nohar Ali est fonctionnaire à Semera.
Pendant l'année écoulée, nous prévoyons de semer du blé sur 8400 hectares de terre. Nous avons aussi réussi à mettre en œuvre cet objectif grâce à la coopération des efforts conjoints entre le gouvernement éthiopien et le peuple. Nous nous efforçons aussi d'accroître nos efforts et d'augmenter la production.
Cependant, le département américain de l'agriculture estime que l'objectif de l'Éthiopie d'éliminer le besoin d'importation l'année prochaine est irréaliste. Le besoin du pays en matière d'aide alimentaire continue persiste, déclare Valérie Browning, de l'Association pour le développement pastoral, une organisation à but non lucratif qui intervient à Semira.
La région Afar n'a jamais été dans une pire situation. Nous avons une situation qui se double entre les effets du conflit et ceux de la sécheresse. Parce que la situation actuelle est que le gouvernement dit qu'en fait 95% de tous les Afars sont en situation d'insécurité alimentaire.
La grave sécheresse et la guerre dans la région du Tigré ont laissé plus de 20 millions de personnes dans un besoin selon le Programme alimentaire mondial. En plus, les parties belligérantes sont accusées d'empêcher la nourriture d'atteindre les populations vulnérables. La crise en Ukraine a exacerbé les conditions existantes, réduisant les importations de blé et la Russie a imposé des restrictions sur les importations d'engrais. Cela pourrait rendre la culture du blé plus difficile et plus coûteuse. Chimimba David Firi est le coordinateur sous-régional de la FAO pour l'Afrique de l'Est.
Des pays comme l'Éthiopie qui ont importé du blé et des engrais sont très durement touchés.
Pour ceux qui sont le plus dans le besoin, toute aide, qu'elle soit du blé ou autre, ne peut arriver qu'au bon moment.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com. À tout de suite.
Ici aux États-Unis, des bus remplis de migrants continuent d'arriver à Washington DC en provenance du Texas. Ils sont envoyés par Greg Abbott, le gouverneur républicain de l'État, qui estime que le président américain Joe Biden n'a pas fait assez pour sécuriser la frontière sud avec le Mexique. Le reportage de Jacopo Lucci, Jean-Roger Bion, raconte.
D'après les responsables du district de Columbia, plus de 3100 papiers sont arrivés dans la capitale américaine en provenance du Texas depuis le mois d'avril. Les familles y demeurent pendant des jours dans l'attente de parents ou bien elles attendent que des organisations caritatives les déplacent vers d'autres endroits ou encore leur procurent des billets de bus pour d'autres villes comme New York ou Chicago. Arnaldo Bienvino est un migrant vénézuélien.
Je ne veux absolument pas qu'il me donne quoi que ce soit. Je veux travailler. Si quelqu'un ici à Washington me dit « Je vous offre un toit pour vous abriter et un emploi sûr », je resterai ici.
L'un des bus qui est arrivé à Union Station contenait un groupe de demandeurs d'asile vénézuéliens qui ont traversé la périlleuse vallée de Darien entre la Colombie et le Panama il y a plusieurs mois avec de nombreux enfants en bas âge. Ils se sont confiés aux autorités à la frontière américaine. Ces derniers leur ont fait remplir des formalités d'immigration avant de les laisser embarquer dans un bus. Ils attendent maintenant une date de procès. Certains migrants disent qu'un comité d'accueil les attendait à la gare à Washington. Sarah Yalvarado est une migrante vénézuélienne.
Je suis reconnaissante envers les habitants de Washington. Ils nous ont donné de la nourriture. Même les employés de McDonald's nous ont donné de la nourriture.
Les organisations humanitaires comme le Centre de ressources d'Amérique centrale ou CARESEN font ce qu'elles peuvent. Abel Nunez est le directeur exécutif du CARESEN.
Je pense que le problème actuel est le manque de soutien des gouvernements locaux et du gouvernement fédéral pour répondre aux besoins de la population. Parce que nous n'avons pas d'endroit à Washington où nous pouvons les recevoir.
Le ministère américain de la Sécurité intérieure n'a pas encore répondu aux requêtes de la VOA pour des commentaires sur l'afflux des réfugiés dans la capitale fédérale. Mais le gouvernement des États-Unis maintient sa position en matière d'immigration selon laquelle personne ne doit voyager sans un visa valide. La ville de Washington étant débordée, les organisations humanitaires s'occupent d'abord des enfants et des femmes et tentent d'acheter des billets pour que les migrants puissent poursuivre leur route ailleurs. Pour l'instant, personne ne sait si d'autres bus avec des migrants arriveront du Texas, mais les activistes ici, à Washington, disent qu'ils ne s'attendent pas à ce que les arrivées s'arrêtent.
C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité à VOA Afrique. Un grand merci à toute l'équipe de production qui a permis la réalisation de ce journal. Joselle Morissin, Lionel Manuela Gaïma et Michel Claire-Joseph. À la présentation, Eric Manuela Kiza. Ainsi va le monde aujourd'hui. Pour plus d'informations, 24 heures sur 24, un seul site internet, voafrique.com. Sans oublier nos pages Facebook, YouTube, Twitter et Instagram, bien sûr. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes. À la prochaine.